Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers.
Sixième émission. La leçon de Proust selon Francis Ponge.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Francis Ponge.
J'ai abordé Proust de façon très lente et à plusieurs reprises. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai d'abord trouvé Proust dans la bibliothèque de mon père. J'étais dans des études de première supérieure. J'avais beaucoup à faire, à Louis Grand, je ne sais pas, enfin ça n'a pas marché. Ensuite, eh bien, il y a eu la guerre, enfin pour moi, c'est-à-dire que j'ai été mobilisé en 18, et je n'ai, je crois, recommencé à lire, alors des fragments de Proust publiés dans la Nouvelle Revue Française vers 1920-21. Et cela m'a alors... Peut-être parce que c'était des fragments, probablement très bien choisis par Rivière-Pollin. C'était moins long. Les fragments choisis étaient peut-être ceux qui pouvaient atteindre immédiatement, enfin, un lecteur. Cela m'a touché. Il faut dire que je commençais à ce moment-là à écrire. Enfin, j'avais commencé plus tôt, mais je commençais vraiment à savoir ce que c'était que... ce que je voulais faire, et je tendais vers une littérature extrêmement serrée, dense, de petits textes à la fois très courts, exactement le contraire de ce que Proust montre, c'est-à-dire un langage synthétique, alors que Proust est évidemment le plus analyste, enfin le plus partisan de l'analyse. Toujours est-il que, malgré la grande différence entre ce que je voulais faire, c'est-à-dire rapprocher, si vous voulez, la langue française de la langue latine, en étant aussi peu analyse que possible, en supprimant les petits mots, et en tout condensant, mon professeur déjà de Cannes me disait que mes mots se massaient les uns les autres, en fait que c'était un peu comme du chewing-gum. Évidemment, Proust, c'est tout à fait le contraire. Malgré cela, j'ai été séduit par Proust. Dans le premier numéro de la Nouvelle Revue Française, qui comportait des textes de moi, en 1923, j'avais alors 24 ans, il y avait un fragment de Proust qui précédait immédiatement mon texte. C'était le Septuor de Vinteuil. Il faut dire aussi, voyez donc, qu'il s'agissait là d'un fragment concernant la musique. Or, il se trouvait que j'étais musicien depuis très longtemps, puisque même quand j'étais enfant, on pensait que je serais plutôt un musicien qu'un écrivain. On me donnait du talent en musique. Je crois que j'étais sensible à la musique, très sensible, même à l'époque en question, c'est-à-dire vers 1920-22-23, j'allais beaucoup au concert. Ce qui m'a tellement ému, ce que j'ai tellement aimé dans ce fragment, et bien sûr, en général, de ce que Proust dit de la musique et aussi de la peinture, c'est qu'il parle de la façon la plus simple, de plein pied, qu'il entre, n'est-ce pas, et qu'il parle de la, par exemple, du Septuor de Vinteuil, non pas ex-cathédra, mais qu'il se trouve dans un salon, il y a à la fois la peinture du salon, des réactions des gens qui sont dans ce salon, il se moque un peu d'eux, et quand le Septuor commence à être joué, Eh bien, c'est au milieu de la vie. Enfin, ce n'est pas du tout une critique ou un morceau d'éloquence sur le secteur de Vinteuil. Tout cela est à la fois très naturel. Il refait le chemin de son propre esprit sans aucune vergogne en disant tout et en ne laissant pas s'insérer la moindre idée critique qui ne soit pas née de sa sensibilité. Mais aussi, naturellement, le fait que, pour être honnête avec cette sensibilité, avec ses impressions les plus fines, il a été obligé d'inventer un style. C'est-à-dire, dans la Nouvelle Rue Française, nous avions l'habitude de trouver des textes quasi classiques. Valéry, Gide. Je ne dis pas qu'il faisait des pastiches de la littérature classique. Mais enfin, c'était bien la seule revue où on était certain de ne pas trouver de faute de français, où tout était dans l'esprit de la littérature classique. Vous savez bien que la réaction, par exemple, de Gide contre le symbolisme, dans les prétextes, les nouveaux prétextes, c'était vers la litote, par exemple. C'était une expression condensée et qui dit finalement plus qu'elle ne dit, enfin, c'est-à-dire qui exprime plus que ce qui est dit. C'était une révolution de voir quelqu'un qui avait l'audace, à la fois en écrivant très bien, parce qu'il n'y a pas de faute de français dans Proust. Il y a seulement des choses qui étaient parfaitement interdites, par exemple par nos professeurs de français ou de philosophie, c'est-à-dire de faire des phrases qui durent une demi-page, ou une page et demie. Ça, c'était révolutionnaire. C'était une audace révolutionnaire. Il y avait cela, et cependant tout cela était parfaitement écrit. Bon, j'arrête là pour ce qui est de mes impressions premières. Parce qu'ensuite, beaucoup plus tard, quand on est entre 20 et 30 ans, 4 ou 5 ans, c'est énorme. Surtout quand on ne s'occupe que de son travail, c'est ce que je faisais. Je ne voyais personne, je n'étais pas mondain le moins du monde, je n'allais même pas dans les cercles littéraires, j'étais enfermé. Dans ma chambre, et quand je sortais, j'étais pour aller à quelques promenoirs musicales, le soir, tard, ou à me promener la nuit. Donc je m'occupais absolument que de cela. Je méditais sur les règles de la littérature, la façon de faire, la façon d'écrire. Et je me suis mis alors à lire Proust d'un bout à l'autre complètement. Il faut dire que ma méditation était à base de refus de la société comme elle se trouvait. J'étais un révolté. Bien que je n'ai pas voulu les approcher alors parce que je n'aimais pas les attitudes théâtrales et le scandale et les manifestations sur les tréteaux, j'étais tout de même très proche des surréalistes. J'étais, comme certains d'entre eux, comme la plupart d'entre eux, à l'intérieur de moi, très révolté, très brutal. Et mes expressions ne l'étaient pas, parce que je ne montrais quasi rien. Mais dans mon comportement, j'étais un être farouche et brutal. À partir du moment où j'ai eu lu Proust, alors dans son intégrité, c'est-à-dire probablement vers 1928, à ce moment-là, tout a changé. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'écrivain ait été le moins du monde changé par Proust. Il a été plutôt pour moi une espèce de confirmation qu'on pouvait dire ce qu'il y a de plus particulier dans votre sensibilité, à sa façon, c'est-à-dire en entrant dans la forêt et en suivant tous les sentiers, ou à la mienne, c'est-à-dire en essayant d'avoir des expressions très, comment dirais-je, très vives, mais à la fois très denses, très serrées, c'est-à-dire en serrant tout, mais qu'il s'agisse de couleurs, mettons fauve. Alors, c'est l'homme, chez moi, qui a été changé, c'est le caractère. À partir du moment, au fur et à mesure que je disais Proust, je me sentais changé, j'étais changé. J'étais un peu naïf par rapport à la société, je crois que Proust a fait que je l'ai été moins. Enfin, ce qui m'a alors bouleversé, bien sûr, c'est le temps retrouvé. Et ce sont les passages, les longs passages, méthodologique, enfin, concernant l'art d'écrire et la conception de la littérature comme façon de vivre chez Proust. Ces passages sont pour moi un sommet de, si vous voulez, de la littérature d'art poétique. Il a tout sacrifié, on le sait, n'est-ce pas, sa vie même, à cette passion et à ce désir de communiquer le plus profond, le plus fin de sa sensibilité. Finalement, il est évident que les plus grands génies du siècle, enfin ceux qui ont été, enfin je parle en littérature française, et dans la nouvelle revue française, puisqu'à l'époque c'était elle qui révélait cela, et qui polarisait les grands talents, il est évident que c'est non pas tellement ce qui a fait, comment dirais-je, la doctrine de la nouvelle revue française, c'est-à-dire, mettons J.D. Valéry, mais Proust et Claudel, c'est-à-dire les gens doués d'une telle ressource de sensibilité, d'un tel foisonnement de sensations, et aussi qui ont bouleversé le style, qui n'ont pas été le moins du monde des académiques ou des néo-classiques, mais qui ont inventé leur propre façon de parler. Enfin, il est évident qu'ils n'ont pas été si vite reconnus, ni l'un ni l'autre, même à l'intérieur de ces cercles. En somme, c'est l'audace à la fois et la douceur de Proust qui ont été pour moi bouleversants, enfin, qui m'ont changé entièrement. Et j'ai pour lui une reconnaissance infinie. Et je n'ai jamais parlé de Proust, et ni écrit de lui. Probablement parce que c'était trop difficile pour moi. Et c'est ici la première fois, et c'est bien faible. Il faut excuser tout cela, ce n'est rien, c'est un peu de choses.
À 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier.
Sixième émission. La leçon de Proust selon Francis Ponge.